Dimanche dernier, ceux qui étaient là, nous avions parcouru les 20 qualifications qui démontrent un chrétien mûr spirituellement. N'empêche que ces passages parlent des traits qui doivent caractériser ceux qui aspirent à être évêques, anciens ou pasteurs. Mais nous avons démontré que la Bible est très claire que ces 20 qualifications sont pour tous les croyants sans exception. Et ce matin, je ne veux pas remettre les 20 qualifications. Vous imaginez bien, on a 20 messages pour chaque qualification. Donc c'est ce qui nous attend. Mais j'ai réfléchi. Je dis, est-ce que c'est sage d'aller un par un sur ces qualifications pour tous les croyants, n'empêche qu'ils sont adressés avant tout pour les anciens, ceux qui aspirent à être anciens, évêques. Et donc, ce que j'aimerais juste vous donner, trois domaines. On peut le regrouper, ces 20 qualifications, dans trois domaines. C'est plus facile de retenir les trois que les 20. Mais dans les trois, et on aura les 20 dispatchés. D'accord? Donc, on peut les mettre dans des domaines qui relèvent de l'aspect moral. D'accord? Et on peut mettre les autres dans un domaine qui relève de l'aspect social. Et dernièrement, on peut mettre le reste dans un domaine qui relève du domaine spirituel. Retenons donc les 20 critères pour une vie chrétienne mûre dans le Seigneur. On peut les classer dans trois domaines: moral, social, spirituel. Et donc, pour cela, nous allons revenir dans notre texte phare, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2, et Tite chapitre 1, versets 6 à 7. Et donc, ce matin, je ne veux pas toucher les trois domaines, évidemment le temps ne nous le permet pas. Je veux toucher le premier domaine, le domaine moral, mais uniquement le premier aspect, il s'agit d'être irréprochable. C'est l'objet du message ce matin, être irréprochable. Et donc nous voyons cela dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou surveillant, rappelez-vous, on a travaillé sur chaque terme, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Voilà, je laisse le reste. Tite chapitre 1, versets 6 et 7. Maintenant, il s'adresse à Tite. Il a donné des instructions pour mettre en place les anciens dans la ville de Crète. Et il dit ceci. Au verset 6, si s'y trouve quelque homme irréprochable, je laisse le reste, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Donc vous voyez, dans 1 Timothée, irréprochable, dans Tite, deux fois irréprochable, irréprochable. Donc, trois domaines à retenir, domaine moral, domaine social et domaine spirituel. Si ça vous intéresse, comment j'ai dispatché les 20 dans ces trois domaines, je peux vous faire une photocopie de ces tableaux-là tout à l'heure. Il suffit de me dire et je vous le donnerai. D'accord? Pour que vous puissiez faire l'étude chez vous, regardez chaque aspect avec les versets bibliques. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons regarder donc ces deux mots grecs qui est traduit en français « irréprochable ». Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, c'est le mot grec anepilempton. Désolé, je prononce mal. Et un autre mot grec en Tite, les deux irréprochables dans Tite, c'est anekletos. Je vais me rappeler que c'est important ce que je vais dire maintenant. Dieu, pour nous révéler ses pensées, s'adresse à nous, je parle dans le texte originaux, pour l'Ancien Testament, l'hébreu et l'araméen, et dans le Nouveau Testament, le grec, pour nous communiquer donc ce qu'il a à nous dire. Et quand il communique avec ses le grec dans le Nouveau Testament, le hébreu et l'araméen, il va se servir de la grammaire. Il va se servir des verbes. Il va se servir des temps de verbes très importants. Il va se servir de l'orthographe. Il va se servir des phrases. Il va se servir des syntaxes. Vous dites, mais là, où tu trouves ça? Dieu se sert de cela pour nous communiquer ses pensées. Et nous le croyons, moi je le crois fermement, à 100%, c'est ce qu'on appelle l'inspiration verbale. Ça veut dire que jusqu'au choix des mots, quand Dieu a insufflé par l'Esprit de Dieu, l'auteur de tel livre ou tel livre, Dieu a choisi jusqu'au mot qui cette personne doit nous transmettre. Ça, c'est l'inspiration verbale. Quand on dit verbale, donc, Dieu choisit jusqu'au mot. Rappelez-vous, Jésus, que même jusqu'à un petit iota, c'est la petite lettre grecque, il ne disparaîtra pas. Le mot disparaîtra, mais le petit iota, non. Donc vous voyez, jusqu'au choix d'une petite chose, hein, Dieu y veille, hein, il communique ses pensées ainsi. Donc nous croyons l'inspiration verbale. Et nous croyons ici dans cette assemblée aussi à l'inspiration plénière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les livres de la Bible dans sa globalité est inspiré de Dieu. Donc vous voyez, les enfants, vous avez du mal peut-être à faire le grammaire. En français, l'orthographe, la syntaxe et tout le reste, c'est important. Si on veut saisir les pensées de Dieu, surtout en grec, nous avons besoin de considérer ces choses-là quand on veut être sérieux avec la Bible. De regarder le temps, quel temps il est utilisé ici, parce que Dieu veut communiquer les choses de telle manière. Donc, je répète cela tout simplement, que si on a donc deux mots grecs, Dieu les a choisis par le biais de celui qui nous a transmis les auteurs des livres, ici donc de l'épître aux Timothée, jusqu'au choix de l'adjectif ici, en épilepton. D'accord? Donc ça c'est très important. Pourquoi irréprochable est dit en premier? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est le critère le plus important sur lequel tout va se découler les 19 autres. Donc si c'est important aux yeux de Dieu d'être irréprochable, ça doit l'être à nos yeux aussi. Et donc, un épilepton, c'est décomposé en préfixe an, ne pas, épi, qui se traduit sur, et lambano, saisir ou s'emparer d'eux. En gros, cet adjectif, un épilepton, ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est ne pas être saisi. Ne pas être saisi sur quelque chose. Ça, c'est l'idée ici. Ne pas être saisi avec la main. D'accord? Et j'aimerais maintenant regarder les passages. Parce que quand on étudie la Bible, on ne prend jamais un mot, lui, tout seul, dans un passage. Il faut regarder partout dans la Bible comment il est utilisé, ce mot, pour que Dieu nous donne le sens et l'application pour notre vie de tous les jours. Et j'aimerais maintenant vous montrer juste quelques passages dans le Nouveau Testament où cet adjectif est utilisé. Donc dans Matthieu, chapitre 14, verset 31. Cherchez dans votre Bible. Donc Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Ça c'est l'adjectif, ici c'est le verbe, la forme verbale de irréprochable que je viens de dire en grec. Étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quelqu'un sait le contexte? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, tout simplement, donc Jésus voit ses disciples lutter contre une mer déchaînée et les rejoint en marchant sur les eaux. Et alors, en l'apercevant, les disciples sont terrifiés. Mais Jésus calme leur frayeur et accède à la requête de Pierre qui veut venir à sa rencontre. Jésus marche sur les eaux. Et Pierre veut vite aller vers Jésus, marcher sur les eaux. Et il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Mais, connaissant l'histoire, après quelques pas sur les eaux, Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Et nous avons le passage maintenant. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et puis l'ambano, qui est, vient de, en épileptone. Jésus donc veut dire ici, le rattrape et le sauve de la noyade. Le saisit, l'attrape pour le sauver de la noyade. Et la reproche, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Jésus, le mot ici, donc Jésus le saisit pour l'attraper, pardon, avec la main de sauver de la noyade. Regardez, le mot est utilisé aussi en Luc chapitre 20, verset 20, une autre histoire. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui, voilà encore l'autre verbe, quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Quel est le contexte? Les principaux sacrificateurs et les scribes se sont mis à observer Jésus pour saisir de lui quelques paroles. Pourquoi faire, à votre avis? Pour lui saisir quelques paroles, si jamais il y a une parole de travers qui sortait, il dit, paf, on saisit ce mot, voilà ce qu'il a dit, vous savez. Ça, c'est l'idée ici. Donc, on utilise le verbe dans le sens figuré ici. Sens réel, c'est saisir par la main. Mais on utilise le verbe d'une manière figurée hein, pour parler de ces principaux sacrificateurs, ces scribes qui veulent piéger Jésus. En saisissant, s'il y a un mot qui sortait, c'est ce qu'ils voulaient attraper, et alors là, on a trouvé ce qu'il faut, et on va l'accuser, il mérite la mort. Et donc, vous savez, ce qui est formidable dans cette histoire ici, là, si vous lisez dans verset 26 de Luc chapitre 20, nous lisons, ils ne purent, ça veut dire, ni les principaux sacrificateurs, ni les scribes, ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple. Ils n'ont pas pu saisir un mot de trop ou de travers pour pouvoir l'accuser. Donc ici, ils n'étaient pas capables de saisir quelque chose de la parole de Jésus en vue de l'accuser. Pour dire, voilà, vous voyez, on a la preuve, voilà ce qu'il a dit. Il mérite. Il n'y a pas. Donc, ici, ce qu'il faut bien retenir, donc, le sens de irréprochable, hein, tout simplement, donc, c'est saisir quelqu'un, soit par la main, ça c'est le sens réel, mais appliquer d'une manière figurée, saisir quelqu'un sur une parole de trop ou de travers pour pouvoir l'accuser. Et il ne put rien trouver, ça veut dire rien à lui reprocher. Irréprochable. Maintenant, la question, vous dites là, j'ai compris le mot. Mais est-ce que c'est si simple que cela d'être irréprochable, selon vous? C'est facile à dire et à faire? Non. Et pourtant, c'est ce que nous devons être. Pas que pour les anciens, mais même nous. J'aimerais juste vous citer pour nous encourager que oui, oui, c'est possible. Je vais vous ramener dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles en avant. Et regardez dans Daniel chapitre 6, l'histoire d'un jeune homme. Il est dit par des commentateurs, quand il était sorti de Jérusalem et emporté par Nebuchadnezzar à Babylone, il avait l'âge de 17 ans. Certains commentateurs avancent cela de manière sérieuse avec des arguments solides. Daniel, 16 ans. Il se trouve maintenant dans la harem du pouvoir à Babylone. Et j'aimerais tout simplement vous rappeler, regardez Daniel chapitre 6. Être irréprochable, est-ce possible? Et je dirais, excusez-moi Shahab, excusez-moi Sarah, cette histoire va vous faire frémir. Parce qu'on va parler de la Perse. pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'Iran. Ils ne sont pas insensibles à cela. Et nous sommes ici donc dans l'Empire, où maintenant c'est l'Empire Médo-Perse qui prend le pouvoir. L'Empire babylonien vient de disparaître. Et maintenant l'Empire Médo-Perse qui domine le monde, c'est la puissance mondiale. Comme aujourd'hui, on parle des États-Unis, la première puissance mondiale. Et à l'époque, maintenant, donc, Babylone s'éclipse, terminé. Et maintenant, un nouvel empire monte, et très puissant, qui domine le monde de l'époque, et c'est l'Empire Médo-Perse. Et donc, il y avait donc Darius le Mède, qui s'empare donc du royaume après sa victoire sur Belshazzar, le roi de Babylone. Comme je dis, l'empire s'éclipse, et un autre qui monte. Et c'est là qu'on voit quand même à l'époque déjà la manière comment on organisait un royaume, c'est déjà, ils étaient très avancés. Et Darius le Mède organise son royaume à l'époque en 120 satrapies. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, satrapie? C'est-à-dire que le royaume était divisé en provinces, si vous voulez, et chaque province est gouvernée par les satrapes. D'où vient en 120 satrapies? Les satrapes, c'est quoi? Ce sont des hauts fonctionnaires, si vous voulez, des gouverneurs qui gouvernent chaque province, les 120. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Darius va mettre trois chefs à la tête de ces satrapes, ces hauts fonctionnaires, trois chefs qui sont au-dessus d'eux pour contrôler ce qu'ils font. Et Daniel est l'un des trois chefs au-dessus de satrapes. Et vous savez, Darius avait quelque chose derrière son esprit. Hein. Il a entendu tellement, il a vu les témoignages de ce jeune juif exilé. Et il a un cœur qui est vraiment pour lui. Et il voulait l'élever au plus haut de son gouvernement. Et vous imaginez bien les autres satrapes. C'est comme nous, hein. Quand on a un qui s'élève, pourquoi pas moi? Et la jalousie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les autres se sont manigancés pour trouver quelque chose pour éliminer Daniel, pour qu'il ne soit pas élevé à ce poste. Et nous lisons verset 3. Daniel 6, verset 3. Vous avez votre Bible, hein? Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez? Il avait en lui un esprit supérieur. Et ça n'a pas tardé, la réplique, versets 4 et 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Saisir de quelque chose, non pas la parole, ou bien rattraper quelqu'un de la noyade comme Pierre, mais saisir dans la vie de ce personnage qui est Daniel, quelque chose où on peut... Oh, vous voyez? Il a fauté ici. Et voyez dans sa vie le passé, regarde. Et voyez dans le présent, voilà sa vie. On a saisi quelques éléments de sa vie pour pouvoir l'accuser. Mais qu'est-ce que nous lisons dans le texte? Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Est-ce qu'il a fait la corruption? Rien. Mais il était fidèle, ils ne purent trouver aucune occasion. Vous voyez, saisir de tout ce qui est possible, en balayer toute sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il gère, tout ce que... Rien. Ça, c'est magnifique. Ne peut trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Si ça, ça ne s'appelle pas irréprochable, ça s'appelle comment? Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous l'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous voyez, quand on a cherché partout, on n'a pas trouvé. On va chercher ailleurs, hein, on ne va pas lâcher le morceau. Et ils vont chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. J'ai cité un exemple, est-ce possible d'être irréprochable? Ben oui, même jeune homme, c'est possible. Daniel en était un exemple. J'aurais pu vous citer aussi Joseph, aussi un exemple. Et je peux en donner plein de listes de personnages. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne lâche pas le morceau. Alors, ces grands du royaume manipulent Darius pour proclamer un édit interdisant toute autre prière que celle faite à sa personne. Et vous savez, comme connaissant Daniel, droit dans ses bottes, fidèle à 100% à son Dieu. Il n'est pas ni là ni là au milieu, mais il est entier pour Dieu. Et vous savez, malgré cette menace, cet édit, c'est pour ça qu'on parle toujours d'une manière un peu rigolée, la loi des Mèdes et des Perses, pour dire que ça ne change pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Daniel ne s'est pas plié à cet édit. Et nous lisons verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient grandement ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un jeune exilé, il plut le temple. Et dans sa maison, trois fois par jour, il priait. Ils ont trouvé là l'occasion de le saisir. Et vous savez, le reste de l'histoire, on l'a jeté au fossé lion. Hein. Est-ce qu'il est disparu parce qu'il était mangé par les lions? Non, nous ne lisons pas ça. Dieu a veillé sur lui. Ce qui nous intéresse, je prends cette histoire pour nous convaincre que c'est possible. Daniel, confronté à la réalité de sa foi en Dieu, tenait jusqu'au bout. Irréprochable. Quel exemple! Quel exemple pour nous? Est-ce que vous êtes comme cela? Quand on commence à vous titiller un tout petit peu, on va vous demander ça, vous êtes fait partie de cette église? Vous êtes... Non, je ne donne pas mon nom. Je ne veux pas être membre. Ah non? Mais lui, droit dans ses bottes, il y va, aucune crainte, aucune peur, il est à 100% pour Dieu. Et nous devrions imiter de telle vie, de tel homme, qui est un encouragement pour nous aujourd'hui. J'aimerais revenir maintenant à un deuxième verbe, anekletos, c'est ce qui est utilisé deux fois dans Tite, chapitre 1, versets 6 et 7. Il est lit, verset 6, s'il y trouve quelque homme irréprochable, c'est le mot grec ici. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. C'est intéressant que irréprochable, c'est relié par l'expression comme économe de Dieu. Et vous savez, il faut se rappeler dans les sociétés grecques et romaines, dans l'Antiquité, que l'économe gérait la maison de son propriétaire. Souvent, ce sont des esclaves, ou des esclaves vraiment affranchis, mais qui voulaient rester à leur maître. Et ils géraient la maison de leur maître, leur propriétaire. Et ils avaient d'énormes responsabilités. On ne se rendait pas compte. Mais ils pouvaient être responsables des finances de la maison. Ils doivent s'assurer que les produits agricoles étaient bien plantés, cultivés et récoltés. Ils ont des comptes à rendre à leur maître pour toutes les tâches et les responsabilités auxquelles on est confié. Et il y a une leçon ici. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme, vous voyez bien l'image, à la manière d'un économe de Dieu. Et oui, un économe de Dieu est un serviteur qui appartient à Dieu et qui est son représentant. Il est responsable directement devant Dieu. Et donc, dans notre passage, comme économe de Dieu, les anciens, et aussi, comme nous avons dit, que tous les critères valables pour tous les croyants, doivent rendre compte à Dieu pour tout ce qu'ils font ou ne font pas en servant l'Église de Dieu, que Jésus s'est acquise par son propre sang. Juste une question. Vous êtes doté par le Saint-Esprit des dons. Qu'est-ce que vous en faites des dons que le Seigneur vous donne? Est-ce que vous l'utilisez pour l'Église? Je parle tout simplement ici en France, je pense que tout le monde a ici des voitures. La voiture que Dieu vous a donnée, est-ce qu'il peut être utilisé pour le peuple de Dieu, ce qui n'a pas de voiture, pour pouvoir faire ne serait-ce que venir à l'église, par exemple. Dieu vous a donné une maison. Est-ce que votre maison, c'est juste pour vous, ou est-ce que cette maison est utilisée pour le service de Dieu, pour accueillir le peuple de Dieu, pour mieux les connaître, pour mieux les encourager? Et j'arrête ça la liste. Mais combien Dieu nous demandera des comptes pour ce qu'il nous a donné entre ses mains? Est-ce que nous étions des économes de Dieu dans ces choses? Regardez, Aussi, il est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8, le mot irréprochable ici. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est intéressant que nous sommes en face d'une église la plus charnelle, l'église la plus critiquable, l'église la plus égoïste, l'église divisée, chacun les uns contre les autres. Et ce qui est formidable, et c'est ce que je trouve dans ce passage, Dieu nous laisse ces passages qu'à travers une église, pas terrible comme ça, Dieu manifeste que le salut est accordé à ces personnes et pour leur parler et leur aider à sortir de cet esprit de division, Paul va leur rappeler leur statut. Qui sont-ils aux yeux de Dieu? Suivez bien le raisonnement. Au verset 1 à 9 du 1 Corinthiens chapitre 1, pour les aider à réfléchir, pour sortir des divisions dans lesquelles ils sont empêtrés, Paul va les amener à réfléchir qui sont-ils en Jésus-Christ. Et Paul, en s'adressant à eux, si vous lisez déjà au verset 2, il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est leur position aux yeux de Dieu. Vous êtes mis à part pour Dieu. Et en s'adressant de telle manière, il va leur dire, d'accord, vous avez compris. Donc ce n'est pas la peine de vous mordre les uns les autres, de faire un clan dans l'église, de diviser l'église. Il faut que votre position vous aide à réfléchir pour que votre position en Jésus-Christ doive se refléter dans votre conduite, dans votre vie quotidienne. Vous suivez? Des divisions dans l'église. Et pour y remédier, Paul revient à leur rappeler qu'ils sont en Jésus-Christ. Et tels qu'ils sont en Jésus-Christ, ils doivent l'être dans leur conduite pour éviter tel esprit. Ça, c'est le raisonnement. Et c'est pas fini. Non seulement il va parler de cela, mais ici, maintenant, il va s'appuyer sur un autre argument très fort. Il va dire, vous n'avez qu'à lire, hein, juste les versets auparavant, il va leur dire que Dieu a œuvré dans leur vie. Et la preuve que Dieu a œuvré dans leur vie, c'est que, verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. D'accord? Deuxième chose, Dieu a œuvré dans leur vie parce qu'il l'a confirmé aussi cette œuvre par sa parole. Verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, ils étaient au bénéfice de ces bénédictions de Dieu que leur vie, Dieu a œuvré dessus. Et non seulement c'est confirmé par l'Esprit de Dieu dans leur vie, mais aussi par la parole de Dieu. Et alors, comment cet argument va-t-il aider les Corinthiens pour sortir de cet empêtrement de l'esprit de division? Voici le raisonnement. Le fait que c'est Dieu qui a œuvré pour leur salut, ce n'est pas un prétexte pour continuer à vivre dans le péché. Vous voyez le raisonnement? Si Dieu a œuvré dans votre vie, vous avez le témoignage de l'œuvre de Dieu par l'Esprit de Dieu dans votre vie, par la parole de Dieu qui a été établie chez vous, et alors, c'est plus la peine de continuer à chercher comme un prétexte de continuer à pécher et de vivre toujours dans la division. Parce qu'il dit, dans le perspective du jour du Seigneur, comme c'est Dieu qui est vrai en vous, depuis votre salut, c'est comme un contrat, c'est sûr que Dieu vous amènera jusqu'à la gloire, irréprochable, et d'où notre mot. Vous voyez? Ça c'est magnifique. Quand je tremble parfois, quand je commets des fautes, il se peut dans l'esprit de dire, est-ce que Dieu m'accepte encore? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne perds pas mon salut? Je trouve dans 1 Corinthiens 1, ici, chapitre 1, verset 8, à partir du 5 jusqu'au 8, une vérité que nous devrions serrer dans le cœur, que mon salut, c'est Dieu qui œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est comme un contrat, il va m'amener jusqu'au bout. Quelles que soient les luttes, quelles que soient les chutes, Dieu est assuré de la victoire pour notre salut du début où nous avons mis notre confiance en lui jusqu'à la gloire et irréprochable devant lui. Magnifique, n'est-ce pas? Et alors, si telle est l'œuvre de Dieu, ça doit impliquer une application pratique dans nos vies. De ne plus être comme ils étaient avant dans les divisions, dans les sectarismes, dans l'orgueil, dans la sagesse humaine qu'ils vantaient, etc., etc. Donc vous voyez, donc ça c'est le message ici. Pour finir, l'utilisation du mot irréprochable encore dans Colossiens 1:22 pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Donc ici, dans Colossiens 1:22, le mot est traduit sans reproche et vous avez vu, il est placé devant deux mots, saint et irrépréhensible, montrant qu'il y a un lien entre la sainteté et le fait d'être sans reproche. Vous avez remarqué? Sans reproche est précédé de deux mots, paraître irrépréhensible et saint. Donc, il y a un lien étroit entre la sainteté et le fait d'être sans reproche. La sainteté, c'est quoi? J'aime beaucoup ce que disait un serviteur de Dieu. La sainteté, c'est quoi? C'est la christianisation du chrétien. Il est chrétien et chaque jour il vit en tant que chrétien. Il y a le fait qu'il est déjà saint une fois pour toutes, c'est sa position, mais chaque jour sa conduite doit être en conformité avec sa position en tant que saint. Et dans ce domaine, il doit être sans reproche. Attention, ce qui nous embête un peu, c'est que nous faisons une confusion entre irréprochable et impeccable. Quelqu'un peut dire quelle est la différence? L'impeccabilité, ça veut dire tout simplement sans péché. Mais irréprochable ne veut jamais dire sans péché. Vous voyez la différence? Irréprochable, comme nous venons de le dire, c'est pas sans péché. C'est pas l'impeccabilité. Donc c'est très important. Et Dieu veut nous voir irréprochables chaque jour dans notre vie. Vous savez, l'auteur anglais C.S. Lewis a écrit ceci au propos du caractère. C'est qu'un homme fait quand il est surpris est la meilleure preuve de quelle sorte d'homme il est. C'est vrai pour les femmes aussi. Je répète, ce qu'un homme ou une femme fait quand il est surpris est la meilleure preuve de quelle sorte d'homme ou de femme il est. Et continue l'auteur. Notre caractère est déjà bien établi avant que cela se montre dans un moment de crise. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on se dit, c'est pas possible. Je suis comme ça, moi. Si je tombe de haut, c'est pas possible. Je suis capable de ça. Oui, notre réaction est une conséquence de notre caractère. Et comme Paul écrit à Timothée, la première chose qu'il a dit à propos de quelqu'un qui veut être ancien, c'est qu'il soit irréprochable. C'est une question de caractère. Et c'est selon Paul, c'est le caractère le plus important, je dirais même que la connaissance ou la capacité. Pourquoi? Parce que la connaissance, on peut poser des questions ou lire des livres pour avoir la réponse pour la connaissance. Et les capacités, on peut être enseigné, prendre des cours et faire des stages. Vous voyez? Mais le caractère, c'est plus difficile. Et pourtant, Dieu veut nous voir changer dans notre caractère irréprochable. Le caractère, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Et je vais terminer ce sermon par une histoire vraie. Concernant le fait qu'on doit être irréprochable. Un dimanche matin, dans une église, un homme inconnu de l'assemblée venu assister au culte, il s'est mis au fond de la salle. Il écoutait très bien le prédicateur. culte était terminé. Le pasteur allait, parce qu'il l'a vu du pupitre, aller au fond de la salle pour le saluer. Il n'était plus là, le monsieur. Il est parti aussitôt que le message est fini. Tchop, il est parti. Et vous savez qui était ce monsieur? C'était un conducteur de bus. Et qui cherchait la vérité. C'est pas le hasard. Un jour de la semaine qui suit, ce pasteur qui était devant le pupitre prenait le bus. Il rentre devant le chauffeur, donc celui qui écoutait au fond de la salle la prédication, et le chauffeur du bus. Et le pasteur, comme tout bon citoyen, achète son ticket, il a donné un billet. Et qu'est-ce qu'a fait le chauffeur? Il sait bien ce qu'il doit lui rendre, mais il a donné plus que ce qu'il doit lui rendre. Donner plus, donc il faisait exprès d'être trompé dans le rendu de la monnaie. Et le pasteur arrivé dans le bus, donc il prend son siège, il dit, c'est possible, tu m'as donné plus que ce que tu me dois. Le monsieur conduit son bus, il s'arrête d'arrêt en arrêt. Hein. Et vous savez, le pasteur, avant de descendre de son arrêt, est venu lui dire, monsieur, vous m'avez donné trop, je vous rends le surplus. Un mot, il est juste. Maintenant, je veux venir dans votre église. Quoi? Vous savez, j'étais chez vous dimanche. Maintenant, je vois que vous êtes un homme irréprochable. Je sais qui vous êtes. Votre prédication ne me suffit pas pour voir vraiment si je suis, si c'est la vérité. Mais je vois dans votre vie l'irréprochabilité, vous êtes honnête. Je dois revenir. Quel exemple! Être irréprochable, c'est pas dans, parfois dans les tâches énormes, dans les petites choses. Parce que vous êtes comme ce pasteur. Irréprochable. Quand votre chef vous demande de faire un travail, personne ne vous voit. Faites. Est-ce que vous êtes irréprochable, même si le chef n'est pas derrière vous? Je parle aux élèves, aux jeunes. Quand vous êtes en évaluation, est-ce que vous êtes irréprochable? J'ai oublié ta leçon. Tentative de tricher. Vous êtes irréprochable. Il y a beaucoup d'exemples. Mais c'est pour vous dire tout simplement combien ce caractère est si important pour chacun d'entre nous. Et ce que le Seigneur veut, c'est important à ses yeux. Il veut que ça soit important à nos yeux. Et ça doit commencer aujourd'hui, dans notre propre vie. Que le Seigneur ne trouve pas quelque chose à saisir dans mes pensées, dans mes actes, dans mon cœur, qui dit, aïe, 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 qu'est-ce que t'as fait? Pour ça, on ne peut pas saisir moindre chose. Dieu veut que il n'y a rien à dire. Je sais que c'est élevé. Nous en avons parlé, mais ce à quoi nous sommes tous appelés. Et les luttes sont pareilles. Pour vous les enfants, pour moi, pour chacun d'entre nous, être irréprochable, ça demande des luttes, ça demande du travail, ça demande de la discipline. Et on peut y arriver. Daniel est arrivé. Et nous aussi, nous pouvons arriver.